Pentecôte, telle que le rapporte saint Luc dans les Actes des Apôtres, est marquée par trois signes. Or, hier comme aujourd'hui, ces trois signes, le souffle, le feu, les langues, constituent un message de Dieu pour le monde et pour chacun de nous. Le souffle. En grec, le mot souffle peut se traduire de diverses manières. Pnoé. Nous retrouvons ce mot dans le passage des Actes entendu tout à l'heure pour désigner le vent. Et pneuma. Ce mot, qui donnera en français pneumatique ou pneumonie, est utilisé par saint Jean dans la page d'évangile de ce matin pour parler de l'esprit. Le souffle est donc une manifestation de l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, de leur amour mutuel qui se donne aux hommes pour donner la vie. Peut-être vous demandez-vous pourquoi l'Écriture nous donne à entendre deux versions du don de l'Esprit aux apôtres, l'une par Jésus au soir de Pâques, l'autre 50 jours plus tard à la Pentecôte. Y aurait-il contradiction entre Jean et Luc ? En fait, sans entrer dans le détail d'une étude biblique, nous pouvons dire que les deux textes apportent chacun un éclairage complémentaire sur l'expérience spirituelle vécue par les amis de Jésus. Le récit de Jean est plein d'allusions au récit de la création dans le livre de la Genèse. Rappelons-nous, entre autres, que Dieu nous donne une âme à l'humain en lui insufflant son haleine de vie, son souffle divin. Sans l'Esprit de Dieu, nous existons certes, mais sommes-nous des vivants ? Luc, lui, évoque un vent violent et un feu qui ne sont pas sans faire penser au don de la loi par Dieu à son peuple, à la montagne du Sinaï. Or, cet événement est justement celui qui est fêté 50 jours après la Pâque, à Shavuot. Comment pourrions-nous entendre, garder et mettre en pratique le commandement d'aimer Dieu et le prochain qui résume toute la loi sans l'action de l'Esprit-Saint ? Une interprétation possible de la coexistence de deux récits du don de l'Esprit est liée au sacrement. L'initiation chrétienne comporte ainsi deux étapes au cours desquelles nous est donné l'Esprit, le baptême et la confirmation. Le premier inaugure objectivement notre vie chrétienne, la seconde nous affermit objectivement dans notre capacité de rendre témoignage à l'Évangile et à sa loi d'amour. Et c'est ce qu'ont vécu hier une soixantaine d'adultes de notre diocèse qui ont été confirmés par l'évêque à la cathédrale. Et nous, dans notre vie quotidienne, comment continuons-nous à recevoir l'Esprit de Dieu ? Qu'est-ce qui nous essouffle, personnellement et communautairement ? Qu'est-ce qui nous dévitalise et nous fait perdre courage ? Et qu'est-ce qui, au contraire, nous donne du souffle ? Saint Paul, dans son Épître aux Galates, nous aide à opérer ce discernement en nommant très clairement d'un côté les conséquences d'une vie coupée de Dieu, qui croit trouver son souffle en elle-même, hein, sans le recevoir, comme nous l'entendons dans la Genèse, de Dieu. Et puis de l'autre côté, le fruit multiforme de l'Esprit-Saint qui renouvelle la face de la terre et chacune de nos existences, pour peu que nous fassions le choix exigeant de marcher sous la conduite de l'Esprit. Après le souffle, le feu. À l'ascension, tel que nous le rapporte saint Luc au début du livre des Actes des Apôtres, Jésus dit à ses disciples « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Or, cette force qu'ils reçoivent à la Pentecôte se manifeste sous la forme de langues de feu. Le symbolisme du feu est extrêmement riche dans toute la Bible. Retenons-en deux aspects. Le feu de l'Esprit-Saint réchauffe et purifie les cœurs. Premièrement, il ranime les cœurs abattus et redonne du courage. Nous l'avons chanté dans le chant d'entrée, « Ranime nos cœurs ». Dans le récit de saint Jean, les apôtres sont confinés, comme nous, nous l'avons été pendant un temps, au Cénacle, les portes étant verrouillées avec la peur au ventre. Or, Jésus leur donne l'Esprit-Saint qui, dans le récit des Actes, les embrase et les pousse à sortir pour annoncer la bonne nouvelle. Ce feu de l'Esprit, notre monde en a plus que jamais besoin. François Mauriac, s'adressant à des jeunes, affirmait, et c'est une citation que je prends souvent, « Le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, beaucoup d'autres mourront de froid. Le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, beaucoup d'autres mourront de froid. Il ne nous est donc pas possible de laisser mourir en nous le feu de l'Esprit-Saint. Saint Paul, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, utilisent, eux, l'image du feu pour parler de l'action de l'Esprit-Saint qui éprouve et purifie nos cœurs comme on éprouve et purifie un métal. Tout ce qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas frappé du sceau de la charité, doit être consumé par l'Esprit-Saint. Dans le sacrement de la réconciliation, le prêtre le dit bien, il a envoyé l'Esprit-Saint pour la rémission des péchés. Et nous, sommes-nous prêts à passer par le feu, à nous laisser conduire par la force de l'Esprit-Saint? Sans sa grâce puissante, nos efforts pour vivre généreusement et droitement risquent d'être vains à plus ou moins long terme. Dans notre époque de transition culturelle et de purification ecclésiale, nous avons bien des motifs d'avoir peur. Ne craignons pas, pourtant, de nous exposer au feu du Saint-Esprit. Jésus le nomme l'Esprit de vérité à plusieurs reprises dans la page d'Évangile de ce jour. Non seulement l'Esprit nous donne de connaître le Père et le Fils, mais il nous donne de nous connaître nous-mêmes. Et c'est là, peut-être, que le bât blesse. Mais ne craignons pas de laisser Dieu nous conduire dans la vérité tout entière. Nous avons un défenseur puissant, en la personne de l'Esprit-Saint. De plus, n'oublions pas ce que dit saint Paul aux Galates. « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Or, vous le savez bien, comme le dit le Christ, la vérité vous rendra libre. » Le souffle, le feu, les langues. Le troisième signe de la présence de Dieu au jour de la Pentecôte n'est pas le moindre. Chacune des personnes présentes à proximité du Cénacle entend les apôtres parler dans sa propre langue. Le fait étonne ou prête à sourire, c'est selon. Mais cela nous dit que l'Évangile n'est pas réservé à une caste d'initiés, à une civilisation, ni même à ceux qui sont bien disposés. L'Évangile est pour tous. Et c'est à l'Église, cette poignée de Galiléens bien ordinaires, qu'il est confié. Une des difficultés de l'Église, dont nous sommes, vient peut-être de ce que nous semblons avoir perdu cette capacité à parler la langue de nos contemporains. Peu de catholiques vivants peuvent se targuer d'être connus de monsieur et madame tout le monde, sauf peut-être le pape François. Il est des esprits chagrins pour se plaindre de l'audience planétaire du pape. Il me semble plutôt bon de s'en réjouir et d'essayer de comprendre pourquoi François parle à mes amis non-croyants comme à moi. La langue de buis n'est pas son fort, tant mieux. Par la grâce de l'Esprit-Saint, le Verbe continue de parler au cœur des hommes et des femmes de ce temps. Puisqu'il apparaît que nous n'avons pas vraiment les mots pour déjà les toucher, tâchons d'apprendre de leur propre bouche ce qui, pour eux, dit le mieux le mystère de la vie. Et s'ils ne disent pas « Dieu » pour le moment, qu'importe. C'est en apprenant leur langue, avec patience et humilité, tout en restant dans la mouvance de l'esprit, bien entendu, que nous pourrons peut-être un jour articuler une parole d'évangile audible, compréhensible et crédible. Souffle, feu, langue, trois signes d'une dynamique irrésistible. Et soyons-en convaincus, irrésistible. Trois signes de Dieu aux hommes qui l'aiment. Trois signes portés par les membres de l'Église que Jésus envoie dans le monde, libérés de leurs peurs et remplis d'Esprit Saint. Amen.